Journal Christelle Rebière, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Y aura-t-il un prix Goncourt sous le sapin? On connaîtra tout à l'heure le nom du lauréat, mais il faudra ensuite imprimer le livre en grosse quantité et la pénurie de papier pourrait l'entraver. Toujours au rayon pénurie, nous ferons un tour en Chine où l'on demande à la population de faire des stocks alimentaires. Autre conséquence ici en France, les voitures d'occasion risquent de devenir plus chères que les neuves. Un dernier tour et puis s'en va. Angela Merkel fait sa dernière visite protocolaire en France en tant que chancelière. Elle aura droit aux hospices de Beaune et trinquera une dernière fois à l'amitié franco-allemande. Le procès des meurtriers de Mireille Knoll, après une semaine d'audience, toujours beaucoup de confusion. Enfin, pour la Tour Eiffel, qui retrouve ses visiteurs, c'est un bon thermomètre du tourisme. Votre invité à 8h20, Nicolas, Adrien Quatennens.
Oui, coordinateur de la France Insoumise, député LFI du Nord, le standard vous attend. 01 45 24 7000, passez autrement par l'application d'Inter et les réseaux sociaux.
France Inter. Et le prix Goncourt est décerné à, vous aurez la réponse, à la mi-journée en direct du restaurant chez Drouan, comme le veut la tradition. Mais cette année 2021 marquera-t-elle la revanche des petites maisons d'édition? Il y a quelques années, vous en souvenez peut-être, le Canard Enchaîné avait inventé un mot valise pour désigner les grandes maisons qui raflaient tout, les Galli-Grasseuil, contraction de Gallimard, Grasset et Le Seuil. Les quatre finalistes sont aujourd'hui Christine Angot, Serge Chalandon, Philippe D'Alembert et Mohamed Bougarsar. Ces deux derniers, haïtiens et sénégalais, sont publiés par de petites maisons indépendantes, ce qui est tout à fait inhabituel, Ilana Mor-Youssef.
La dernière fois qu'une maison indépendante de petite taille a remporté le prix Goncourt, c'était il y a 37 ans. 1984, L'Amant, de Marguerite Duras, aux éditions de Minuit. Autant dire que si les éditeurs Sabine Vespizer ou Philippe Rey l'emportaient, ce serait un événement. Même si depuis peu, note l'historien de l'édition Jean-Yves Mollier, il y a du changement.
Ce qui est nouveau depuis une dizaine d'années, c'est que, au fond, le public exerçant une sorte de pression, les jurys se sont rendus compte qu'il fallait, en quelque sorte, aérer, dépoussiérer et laisser entrer, effectivement, les auteurs et par conséquent, quelle que soit la maison d'édition derrière. C'est vraiment une question de crédibilité.
Ce qui a joué aussi dans le cas du Goncourt, Jean-Yves Mollier en est convaincu, c'est le scandale qui a éclaboussé le jury en septembre dernier.
Comme vous le savez, la polémique qui a entouré Camille Laurence a fait que le jury du Goncourt a dû modifier son règlement et essayer de montrer au public qu'il n'y avait pas trop de parti pris ou de manipulation. Désormais, on ne peut pas être jugé parti. Et par conséquent, le jeu est davantage ouvert aujourd'hui.
Et quelle meilleure preuve d'ouverture que de couronner un écrivain haïtien ou sénégalais publié par une maison indépendante.
Mais quel que soit le lauréat et celui du prix Renaudot, dans la foulée se posera la question suivante, y aura-t-il des livres à Noël? Car la reprise économique suscite une grosse pénurie de papier, un manque de matières premières, des délais de livraison qui s'allongent, des prix qui flambent, les éditeurs s'inquiètent. Reportage à Clamecy dans la Nièvre, Magali Homo.
Quand on passe les portes de la maison, la ballerie floche. Difficile d'imaginer que le papier se fait rare.
Les machines marchent à plein rendement parce que nous avons des stocks encore de papier.
Hubert Pédurand est le directeur des lieux. Ici, 22 millions de livres par an sont fabriqués. Alors pour tenir le rythme, une vingtaine de machines tournent à plein régime, ou presque.
Là, actuellement, il n'y a pas une seule machine qui n'est pas en marche.
Si, vous en avez une qui n'est pas en marche. Et celle-ci, typiquement, on est dans l'attente d'un réassort de papier.
Mais si les mots ont un sens, celui de pénurie est un peu fort pour le patron de cette imprimerie.
Je qualifierais plutôt la situation de forte tension, avec des délais que l'on n'a jamais vus. C'est un secteur qui est extrêmement énergivore, donc le coût de l'énergie augmentant. Il y a des répercussions immédiates sur le coût de la matière première.
Sur son bureau, Stéphane King côtoie Clara Dupont-Monod ou le dernier Nobel.
Certains groupes, de gros groupes, ont acheté et stocké du papier depuis avant l'été.
Camille Paulian est directrice d'une agence littéraire.
Donc en fait, il y a des groupes qui ne sont pas concernés par cette pénurie de papier et qu'au contraire, les autres se retrouvent à avoir une augmentation du prix de fabrication qui est très importante.
Une situation partie pour durer. Les fabricants de papier prévoient jusqu'à 20% de hausse d'ici le 1er janvier.
Reportage Magali Homo. Si vous cherchez une voiture maintenant, bon courage. Soit vous achetez du neuf, mais vu la pénurie de semi-conducteurs, vous ne savez pas quand vous serez est livré. Soit vous vous tournez vers l'occasion et vous risquez de payer parfois aussi cher. Ce marché explose. 5 millions de véhicules vendus depuis le début de l'année, c'est presque 4 fois plus que le neuf. Maria Melkurdi s'est rendue chez un concessionnaire Aramis Auto aux Ulis, dans l'Essonne.
Carlos et sa femme Caroline cherchent une nouvelle voiture, plus grande, plus familiale. Ils ont 3 enfants. Première étape, la réflexion.
Occasion ou neuf, on ne sait pas trop encore.
Neuf ou d'occasion, ils n'auront peut-être pas l'embarras du choix.
C'est même pas hésiter, c'est voir la dispo en fait. On va voir ce qui est possible d'avoir, comme dit monsieur, pas dans un an quoi. Si on voulait changer, c'est assez rapidement aussi. C'est le prix qui va nous aider à choisir, je pense.
Le monsieur en question, c'est Guillaume, conseiller commercial. Et le moins cher ne sera pas forcément le véhicule d'occasion.
Les véhicules neufs, il y en a de moins en moins, dû à la crise des semi-conducteurs. Donc ça veut dire que le véhicule d'occasion monte en flèche. C'est pour ça qu'on se retrouve avec parfois des véhicules d'occasion qui se retrouvent aussi chers, voire même un peu plus chers que des véhicules neufs.
Moins 30% de ventes de voitures neuves en France depuis le début de l'année, plus 10% à l'inverse pour les voitures d'occasion. Et quand la demande explose, le chiffre d'affaires monte. Marie Laloy est directrice marketing chez Aramis Auto.
Sur les 3 premiers trimestres de l'année 2021, on a fait plus 38% de chiffre d'affaires. Notre croissance est clairement tirée par le véhicule d'occasion cette année.
Autre tendance qui va sans doute s'accentuer avec la hausse du prix des carburants, l'engouement pour les voitures hybrides et électriques. Chez Aramis Auto, leur vente a déjà doublé en un an.
Enfin, toujours au rayon pénurie, le gouvernement chinois a appelé la population hier à constituer des réserves de produits de première nécessité. Cet appel du ministère du Commerce sur fond de résurgence de Covid, de l'augmentation du prix de certaines denrées alimentaires, a provoqué une véritable ruée dans les magasins. À Pékin, Dominique André.
Ça, je l'ai déjà acheté, lance un homme. Chez Jinkelong, la chaîne de supermarchés de Pékin, les clients répondent à l'appel du ministère du Commerce qui demande à la population de stocker pour parer à toute urgence, ce qui provoque beaucoup d'émotions dans le pays. En sortant du travail, Mayan Dong a fait des provisions.
Je sors du boulot. Ma mère m'a dit de faire des courses. J'achète 15 kilos de riz, 10 kilos de farine et des pâtes instantanées. Et puis il y a le Covid, il y a des cas locaux. Si un jour notre résidence est confinée, il faut qu'on ait des produits d'avance. Demain, je vais stocker aussi des médicaments.
Depuis plusieurs semaines, le prix des épinards, des concombres et des brocolis a doublé. Les Chinois disent qu'ils sont plus chers que la viande. Des pluies diluviennes ont détruit des récoltes, mais sur les réseaux sociaux, des internautes font le lien avec les tensions à Taïwan. Madame Chen se demande ce que signifie vraiment le signal lancé par les autorités.
L'information tourne sur les réseaux sociaux. Je suis inquiète. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement nous demande de stocker une certaine quantité de produits. On nous dit que c'est l'épidémie et que l'hiver est plus froid.
C'est au tour de la presse officielle de calmer l'inquiétude. Il ne faut pas surinterpréter l'appel du gouvernement. Avoir une imagination hyperactive, affirme la presse économique. Pékin, Dominique André, France Inter.
La vaccination ouverte aux enfants de 5 à 11 ans aux États-Unis, le sérum de Pfizer sera administré en 2 injections. Le dosage a été adapté. Joe Biden y voit un tournant dans la lutte contre la pandémie qui permettra de réduire les contaminations et d'éviter les fermetures de classes.
Il est 8h09, la valse aux adieux. C'est le titre d'un roman de Milan Kundera.
Et oui, mais c'est aussi un peu ce qui se joue aujourd'hui entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Ultime visite protocolaire de la chancelière allemande, un voyage d'adieu politique à Beaune, en Côte d'Or. Le chef de l'État a mis les petits plats dans les grands, visite des hospices de Beaune, la chancelière aime le Bourgogne, récital et dîner. Et pourtant, leur relation a mis longtemps à mûrir, Julie Pietri.
Le couple a souvent été présenté comme mal assorti, le feu et la glace, le jeune ambitieux bouillonnant face à une chancelière expérimentée et rationnelle. Les débuts sont hésitants. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron appelle dans un discours à une relance de la gouvernance européenne, politiquement et budgétairement. Silence poli de Merkel. Durant les années qui suivent, le président et la chancelière parlent eux-mêmes de confrontation. Mais des combats les rapprochent avec cette idée que pour peser, l'Allemagne et la France doivent avancer ensemble sur les dossiers lourds que sont le Brexit ou la menace terroriste. Ce qui les soude finalement, c'est la crise du Covid avec ce plan de relance inédit de 750 milliards qu'ils portent ensemble en mai 2020. Angela Merkel est ensuite invitée au fort de Brégançon, du jamais vu pour un chancelier allemand depuis 85. Irak. Le rapprochement est depuis affiché. Il y a une dizaine de jours à Bruxelles, le couple aurait même, selon un indiscret du journal du dimanche, veillé jusqu'à 4h du matin autour d'une bouteille de vin.
Et Emmanuel Macron remettra à Angela Merkel les insignes de Grand Croix de la Légion d'honneur. Sophie Petronin a donc choisi de revenir au Mali. Elle avait été libérée après 1383 jours de détention l'an dernier. Son fils lui avait fait promettre à cette femme âgée de 76 ans de ne pas y retourner. Elle a fini par le convaincre du contraire. Après plusieurs demandes de visa rejetées, elle est entrée clandestinement dans le pays. Anthony Fouchard est journaliste, il lui a consacré un livre baptisé « Il suffit d'un espoir ». Il l'a eu hier encore au téléphone.
Elle vivait jusqu'à la semaine dernière une retraite plutôt paisible, en tout cas c'est comme ça qu'elle la décrivait. Elle a retrouvé sa fille, ce qui était son objectif principal, sa fille qui est retournée à l'école, qui a obtenu son baccalauréat d'ailleurs au passage. Et donc elle finit sa vie là où elle a toujours voulu la finir. Cette histoire de Sophie Petronin, faut la prendre dans la grande histoire, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, elle quitte l'Europe parce qu'elle perd un de ses fils dans un accident de montagne et elle s'était fait la promesse de ne jamais revenir. Donc quand elle est ramenée du désert jusqu'à la Suisse sans même l'opportunité de voir sa fille et de lui dire « bah ça y est, maman est sortie », elle le vit comme une brutalité sans nom. Faut comprendre que c'est une dame qui a 76 ans, qui a passé 25 ans au Mali et qui a des paroles qui peuvent des fois choquer, être un peu brusques, mais si on prend le temps de les nuancer comme j'essaye de le faire là, à défaut de les cautionner, on peut essayer de à minima de comprendre et de pas céder à la polémique un peu facile.
Elle finit sa vie là où elle a toujours voulu la finir, dit Anthony Fouchard, interrogé par Julien Langlais. Au Népal, les opérations de recherche pour retrouver 3 jeunes alpinistes français dans l'Everest sont suspendues pour 3 ou 4 jours. Les dernières recherches aériennes n'ont rien donné. Il n'y a de toute façon aucune chance de les retrouver vivants plus d'une semaine après l'avalanche. Un revers pour Joe Biden aux États-Unis. Le candidat démocrate en Virginie a été battu par le républicain Glenn Youngkin, un homme d'affaires de 54 ans sans expérience politique. La cote de popularité de Biden s'est depuis le retrait d'Afghanistan, ses grands plans d'investissement sont bloqués au Congrès. Cette défaite est un avertissement à un an des élections parlementaires de mi-mandat. Et puis une satisfaction quand même pour le président américain, mais ce n'est pas une surprise. Le démocrate Eric Adams a été élu maire de New York. Ce gosse des quartiers pauvres de Brooklyn, ancien policier et syndicaliste, devient donc le deuxième maire noir démocrate de la ville. Qui a tué Mireille Knoll et pourquoi? Ces questions demeurent sans réponse. Une semaine après le début du procès de 2 hommes devant la cour d'assises de Paris. Le corps de l'octogénaire juive avait été retrouvé tué de 11 coups de couteau, brûlé dans son appartement parisien il y a 3 ans et demi. Les 2 accusés continuent de se charger mutuellement. Les doutes subsistent sur la responsabilité des coups mortels et aussi sur le caractère antisémite du crime. Le témoignage du frère de Yassine Mioub était très attendu hier, mais Mathilde Vinceneux, il n'a fait qu'ajouter un peu plus de confusion.
Il se présente à la barre avec sa grosse doudoune, lui le machiniste de la RATP sans histoire. Ses premiers mots sont pour la famille de Mireille Knoll. Il s'excuse et pleure même plusieurs fois, alors que derrière lui, les proches de la vieille dame tentent de comprendre. Par moments, oui, le témoin semble accuser son frère dans le box, Yassine Mioub. Il le traite d'imbécile, de menteur. Il raconte ce couteau caché derrière sa machine à laver qui pourrait être l'arme du crime. Mais le témoin charge aussi l'autre accusé. Il répète « Je ne sais pas, je suis désolé. Vous cachez des choses à la cour ?» lui lance le président. L'un des avocats de la famille de Mireille Knoll s'agace de ses contradictions et le questionne sur ses allées et venues avec son frère la nuit suivant le meurtre et sur ce long détour incompréhensible pour acheter une crêpe au poulet. Voilà plus de 3 heures qu'il est interrogé quand un avocat de la défense se lève et s'exclame « Finalement, je n'ai pas l'impression que vous ayez aidé qui que ce soit dans ce procès. »
Récit d'audience, Mathilde Vinceneux. Presque un air d'avant, les touristes sont de retour à Paris. On est loin, évidemment, du record de 38 millions de visiteurs en 2019, mais on commence à avoir du mal à trouver des chambres d'hôtel dans la capitale. D'après le cabinet MKG, le taux d'occupation a grimpé de 4 points depuis le mois d'août à 62%. Et la Tour Eiffel est redevenue une grande dame, Faustine Calmel.
Sous la Tour Eiffel, la grande, les petites en porte-clés se vendent à nouveau par centaines. Clients italiens, belges ou allemands que l'on retrouve devant le snack. Mais ce sont surtout les familles françaises qui font tourner la boutique.
Madame, on vous remercie. On a du monde et puis ça s'est calmé un peu au niveau du corona, donc on est content.
Enzo s'éloigne, une crêpe entre les mains, venue de Grenoble pour...
Visiter à peu près
ce qu'on avait vécu avant. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici et qu'on voulait faire profiter aussi aux personnes âgées, ma mamie et mon papy.
Tout le monde sous des parapluies, mais ça ne perturbe pas le programme de Catherine et Étienne.
Revoir les monuments que j'aimais, refaire un petit peu ma touriste.
Et faire découvrir Paris aux enfants.
Avec quelques adaptations.
Donc c'est moins facile d'aller dans les musées, moins spontanément.
À cause de la jauge qu'il fallait réserver à l'avance.
Sinon c'est agréable parce qu'il y a peut-être un peu moins de monde, moins les uns sur les autres.
Autre avantage pour les Bretons Julie, Valentin et leurs deux filles, les tarifs.
On a regardé sur des capitales européennes et enfin, les billets d'avion, c'est plus le prix que c'était avant Covid. Donc ça nous a aussi incité à venir à Paris.
Et puis ces vacances de la Toussaint, c'est une fenêtre dont il faut profiter.
Justement, où là il n'y avait pas au niveau protocole sanitaire, tout ça, rien n'était renforcé, donc on se dit que c'était le moment d'y aller.
Et ils ne sont pas les seuls à en avoir eu l'idée. Sur le site web de la Tour Eiffel, plus aucun billet pour la montée au sommet n'est disponible avant samedi prochain.
Football, olé pour Lille. Les joueurs du LOSC ont réalisé un véritable exploit, vainqueur de Séville à Séville en Andalousie, 2-1 en Ligue des Champions. Leur dernière victoire dans cette compétition remontait à 10 ans. Ce soir, le PSG se rend à Leipzig avec le trio Mbappé, Neymar, Di Maria, mais sans Lionel Messi qui est blessé. Enfin, à partir de 9h22, très exactement, les femmes travailleront bénévolement dans notre pays. Si l'on s'en réfère à l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, 16,5%, un écart établi par Eurostat, l'organisme de statistique de l'Union européenne. Et ça ne s'arrange pas, on régresse depuis 2018. À ce train-là, on aura l'égalité en 2034, affirmait ce matin sur France Inter l'économiste Rebecca Amsalem. Voilà, voilà, je vais me recoucher.
Il est 8h17, Christelle Rebière, merci beaucoup. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Stéphanie, le ciel est instable.
Oui, ce matin, une perturbation assez active finit sa course près des frontières de l'Est. Elle apporte des pluies parfois marquées et des chutes de neige sur tous les massifs de l'Est. On attend 20 à 30 cm de neige au-dessus de 1200 mètres sur les deux Savoies. Des pluies faibles s'invitent aussi sous un ciel nuageux au-dessus des Pyrénées, avec quelques flocons à partir de 1400 mètres. Partout ailleurs, le ciel est partagé entre des éclaircies et des passages nuageux porteurs de quelques averses. Cet après-midi, notre perturbation va traîner du côté des Alpes frontalières avec des précipitations neigeuses en baisse entre 1200 et 1500 mètres. Les pluies deviendront orageuses sur la partie occidentale de l'île de Beauté, mais aussi vers le Pays Basque. Dans les autres régions, peu de changements avec un ciel de traîne lâchant quelques averses par endroit. Les éclaircies les plus belles se produiront autour du golfe du Lion ainsi qu'en Basse-Vallée du Rhône.
Et Mercure s'enfonce dans la fraîcheur.
Bah, il continue sa chute vers l'hiver en descendant légèrement sous les moyennes de saison. Les températures ne dépasseront pas les 10 à 14 degrés en général. Ça sera toujours plus doux près de la Méditerranée avec 15 à 20 degrés. Il fera 9 à Guéret, 12 à Paris, 14 à Nantes comme à Lyon.
Merci Stéphanie Fromentin. Il est 8h18, c'est Géopolitique.